écoutez Radio France Internationale. Il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
Anne Verdaguet.
Et bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal en français facile. Je suis accompagnée ce soir de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Anne Verdaguet, bonsoir à tous.
Dans l'actualité de ce dimanche 17 janvier, Washington, méconnaissable, est transformé en camp retranché. À quelques jours de l'investiture de Joe Biden, les autorités craignent de nouvelles violences de la part des partisans de Donald Trump.
Une caravane de migrants face à face avec la police à son arrivée au Guatemala, mais ils comptent bien poursuivre leur périple vers les États-Unis.
Le principal opposant au Kremlin a atterri à Moscou ce soir. Son avion a été dévié à la dernière minute, mais Alexei Navalny a bien mis le pied sur le sol russe après des mois de rémission en Allemagne suite à son empoisonnement présumé.
Un journal.
Le journal en français facile.
En français facile.
Le début demain d'une semaine historique aux États-Unis avec d'abord une procédure de destitution contre Donald Trump et ensuite une cérémonie d'investiture mercredi du président élu Joe Biden sous très haute surveillance.
Oui, les autorités sont en alerte dans la capitale fédérale, mais aussi dans d'autres États, alors que des milliers de manifestants pro-Trump se rassemblent symboliquement devant les capitoles de différentes villes. D'importants dispositifs de sécurité ont été mis en place pour éviter les débordements, comme celui du 6 janvier dernier à Washington. Lubna Anaki à New York.
Autour de la Maison-Blanche, autour du Capitole, tout le centre-ville de Washington est bloqué par des véhicules de police. Des points de contrôle ont été installés un peu partout. En prévision de l'investiture de Joe Biden, la ville a été placée sous haute protection, un dispositif qui pourrait être mis à l'épreuve dès aujourd'hui. Des milliers de manifestants pro-Trump se sont donné rendez-vous à nouveau pour dénoncer ce qu'ils estiment être une élection volée. Un homme a été arrêté en possession d'une arme chargée et de 500 munitions lors d'un contrôle. Il a été remis en liberté après plusieurs heures, la police ayant déterminé qu'il était en fait agent de sécurité et avait oublié qu'il avait laissé son arme dans le coffre de sa voiture. Des manifestations doivent commencer en ce moment dans d'autres États où la sécurité a là aussi été renforcée autour des capitoles locaux pour éviter les mêmes scènes du 6 janvier dernier. Le FBI dit craindre notamment que les partisans de Donald Trump viennent armés. Plusieurs États ont tout simplement décidé de fermer leur capitole jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et puis à Harrisburg, la capitale de la Pennsylvanie, on se prépare aussi à de possibles violences.
Harrisburg, petite ville d'à peine 50 000 habitants où se trouvent nos envoyés spéciaux Stéphanie Schuller et Bertrand Éclair, qui ont interrogé cette habitante qui est nerveuse à l'idée de ces débordements.
Je pense qu'ils attendront jusqu'au jour de l'investiture parce que personne ne s'y attend. Bon, nous voyons les mesures de sécurité qui seront en place à partir de ce dimanche, mais aussi lundi et mardi. Mais je suis sûre qu'ils tenteront un grand coup le jour de l'investiture. Harrisburg est petite et pourtant l'une des plus importantes capitales des États-Unis parce que nous sommes un État électoral clé. Donc presque tout ce qui s'y passe à Washington DC se passe aussi ici. Nous sommes très près.
Mais contrairement à Washington, les gens d'Harrisburg habitent et travaillent juste à côté du Capitole. Est-ce un problème de sécurité ?
Là-bas, vous voyez, les gens travaillent. Et tous ces immeubles-là sont des logements. C'est insensé. En effet, à Washington, le Capitole est séparé des quartiers résidentiels. Ici, le Capitole se trouve en plein milieu d'Harrisburg. Quand quelque chose arrive, ça ne concerne pas seulement le Capitole, mais chaque habitant.
Des propos recueillis par Stéphanie Schuller et Bertrand Éclair. Joe Biden a lui promis une série de décrets dès sa prise de fonction mercredi. Le futur président américain a promis de réengager les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et de prolonger le moratoire sur les expulsions et les saisies immobilières liées à la pandémie de coronavirus.
Et ailleurs dans le monde, la vaccination contre le Covid-19 franchit une nouvelle étape avec près de 200 000 vaccinés en Inde.
L'Inde, deuxième nation la plus peuplée de la planète, avec 1,5 1,3 milliard d'habitants, a vacciné plus de 190 000 personnes hier au cours de sa première journée de vaccination. Un véritable record. De son côté, l'Espagne a commencé à administrer une deuxième dose du vaccin contre le Covid-19 aux personnes prioritaires qui avaient reçu une première dose en décembre.
Plusieurs milliers de migrants honduriens sont entrés au Guatemala vendredi en forçant la frontière avec l'espoir d'atteindre les États-Unis.
Et ils ont été accueillis aujourd'hui à coups de gaz lacrymogène dans la ville de Vado Hondo, à environ 50 km de la frontière. Certains ont cherché refuge dans les montagnes voisines. Les organisations humanitaires présentes dans cette caravane s'inquiètent des conditions sanitaires dans lesquelles se trouvent ces migrants. Mauricio Paredes est le vice-président régional de la Croix-Rouge du Honduras.
C'est difficile de quantifier exactement le nombre de personnes tout au long de la route. Ils présentent souvent des signes de déshydratation et des problèmes au niveau de la voûte plantaire à cause de longs trajets qu'ils ont parcourus. Cette fois, les conditions sont aussi un peu différentes par rapport à d'autres années. C'est plus compliqué parce que nous faisons face à une forte vague de Covid et nous venons aussi de sortir de la période des cyclones dans la région des Caraïbes. Et maintenant commence la période froide avec des températures à la baisse. Tout cela a une incidence sur la santé des gens, en particulier sur des problèmes respiratoires et sur d'autres maladies associées à la saison.
En cuanto a problemas respiratorios y otro tipo de enfermedades que se pueden asociar a la temporada.
Le vice-président régional de la Croix-Rouge du Honduras, joint par Paola Estagnol du service Amérique latine de RFI.
Alexei Navalny a atterri à Moscou ce soir et il a été arrêté dès son retour en Russie.
Oui, Alexei Navalny arrêté à son arrivée à Moscou par les services pénitentiaires. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a appelé les autorités russes à respecter les droits de l'opposant et également réclamer sa libération immédiate. Alexei Navalny qui est déterminé à continuer de défier le pouvoir russe.
La série noire continue en Afghanistan. Deux femmes juges ont été tuées par balle ce matin dans le centre de Kaboul.
Elles se rendaient en voiture à leur travail quand des hommes à moto leur ont tiré dessus. Aucune revendication pour l'instant, mais les assassinats ciblés sont souvent imputés aux talibans. Une campagne de terreur qui dure à l'encontre des employés gouvernementaux, des militants des droits de l'homme et des journalistes et qui frappe le pays depuis plusieurs mois, malgré les pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement de Kaboul. Le deuxième round de cette discussion a d'ailleurs démarré au début du mois. Les précisions à Kaboul de Sonia Ghezali.
1% des juges femmes a été tué aujourd'hui en Afghanistan, écrit sur Twitter une représentante de Human Rights Watch. Les deux juges assassinés ce matin faisaient partie des 200 magistrates que compte la Cour suprême afghane. Elles étaient à bord du véhicule qui les transportait à leur travail quand des hommes armés ont ouvert le feu sur elles. Ces meurtres s'ajoutent à une longue liste d'assassinats ciblés contre des militants de la société civile, des journalistes, des employés du gouvernement tués par balle ou dans l'explosion de leur voiture piégée par une bombe dissimulée souvent sous leur véhicule. Cette campagne de terreur a commencé il y a plusieurs mois. Les autorités afghanes accusaient les talibans, même si certains de ces assassinats ont été revendiqués par le groupe État islamique. C'est dans ce climat délétère que les talibans et les autorités afghanes ont entamé le deuxième round des négociations de paix à Doha, au Qatar, au début du mois. Selon certaines sources, ces discussions patinent, elles seraient même au point mort. Pendant ce temps, sur le terrain, les violences continuent. Les États-Unis ont de leur côté respecté leur engagement vis-à-vis des insurgés en réduisant encore le nombre de leurs soldats. Ils ne sont plus que 2500. Washington s'est engagé en février 2020 dans le cadre d'un accord avec les talibans, a retiré la totalité de ses troupes d'ici le mois de mai. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI.
Au Darfour, des affrontements entre tribus rivales.
Des affrontements qui ont coûté la vie à près de 80 personnes ces dernières 24 heures, selon un dernier bilan. Ces violences sont les plus meurtrières depuis la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour le 31 décembre dernier. Cette région à l'ouest du Soudan est minée par l'instabilité depuis 2003.
Et puis en Centrafrique, les casques casques bleus ont repris le contrôle d'une ville occupée par les rebelles.
Deux semaines après en avoir pris le contrôle, les rebelles centrafricains ont quitté la ville de Bangassou, à 750 km à l'est de la capitale, Bangui, après un ultimatum de l'ONU. Ces rebelles mènent depuis décembre une offensive contre le régime du président centrafricain. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous Sylvie Berruet.
Merci Anne Verdaguer.
Il est 21h10 à Paris, 20h10 en temps universel.